Un important cortège funèbre transporte en ce moment le cercueil du président George H.W. Bush, Herbert Walker Bush, sous la rotonde du Capitole où il sera exposé en chapelle ardente. Notre collègue Luc Lavoie, que vous entendez tous les jours avec Bernard Drinville, a eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer le 41e président des États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir, Paul.
Oui, à l'époque où, on va se tutoyer, tu travaillais avec l'ex-premier ministre du Canada, ouais, Brian Mulroney.
Quand je travaillais avec M. Mulroney, effectivement, je l'ai rencontré, M. Bush, je pense une dizaine de fois. Je l'ai vu à Washington, à la Maison-Blanche. Je l'ai vu à Ottawa en visite officielle. Je l'ai vu à l'étranger, à des sommets, à Washington plus d'une fois. Et à tel point que ça me flattait beaucoup. Il me reconnaissait. Il m'appelait Luke. Hi, Luke! C'était un homme assez formidable. Hein? C'était un gentleman d'un autre temps, comme on n'en voit plus. Je pense que moi, mon souvenir, c'est qu'on voyait ça sur les grands terrains de golf, ce genre de gentleman très sportif.
Il adorait le golf,
d'ailleurs. Il adorait le golf. C'était un très, très bon sportif. Ouais. Hein. Il jouait au tennis très, très bien.
Au football?
Au football. Très bon joueur de tennis, football, à quel que je pensais, son bateau, son cigar boat. Là,
il adorait le baseball aussi.
Il adorait le baseball. D'ailleurs, j'ai un souvenir merveilleux dont tu serais jaloux, mais je peux y revenir si tu veux.
Oui.
On me demandait, tiens, ça va essayer de relier quelques souvenirs ensemble. À un moment donné, il est venu à Toronto, à ce qu'on appelle maintenant le Rogers Center, qu'à l'époque s'appelait le Sky Dome, parce que c'était le match inaugural des Blue Jays de Toronto et ils recevaient les Rangers du Texas qui étaient présidés et propriétés de George W. qui allait devenir le président en 2000. Ce dont je te parle, c'est en 1990. Et le petit souvenir qui va te rendre jaloux, je vais sauter dessus rapidement, que j'étais au cabinet du premier ministre, c'est moi qui avais organisé cette visite-là, et j'avais reçu un téléphone de quelqu'un qui me disait qu'il vendait des belles souvenirs, là, tu sais, des souvenirs, des crayons, des stylos. Puis il m'avait dit, j'ai quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est pour moi. Il dit, ça ne vous fait une balle de baseball, puis on va voir le logo des deux équipes, puis on va voir le drapeau canadien, le drapeau américain, puis on pourrait faire signer ça par les deux, puis il y en aurait juste un exemplaire. Ce serait le mien, pouvez-vous faire ça pour moi? Puis là, je n'ai pas commencé à faire ça. Puis là, tout à coup, j'ai dit, je le ferais seulement si j'en avais une deuxième. Ah, il dit, pour vous? J'ai dit, oui. Il dit, parfait. Alors, j'ai encore ça chez moi, la balle des baseball. Il y en existe deux au monde, signé par les deux. Et cette fois-là, c'en est un des souvenirs que j'avais envie de rappeler. C'est qu'il était venu avec sa famille, c'est-à-dire que George W., donc, qui était là comme président de l'équipe, sa femme. Il y avait Jeb Bush, qui est devenu gouverneur de la Floride après ça, mais qui était à l'époque un homme d'affaires de la Floride, avec sa femme et deux enfants. Il y avait l'épouse de M. Bush. Puis il y avait un certain nombre de membres de son cabinet. Dick Cheney, qui était secrétaire à la Défense. Mais Marlon Fitzwater, son porte-parole officiel. Brent Scowcroft, qui était le National Security Advisor. Et à un moment donné, le premier ministre puis le président étaient dans une salle à part avec seulement les ambassadeurs dans leurs pays respectifs. Puis ils jasaient de choses importantes. Et nous autres, on était comme dans une pièce attenante avec un petit buffet pour le staff. Bon, on s'assoyait un peu n'importe comment. Alors moi, je suis assis avec Marlon Fitzwater, le porte-parole. Il y avait Dick Cheney, le secrétaire à la Défense, qui allait devenir vice-président par la suite. Et il y avait Brent Scowcroft. Et on voyait au fond George W. Bush, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et qui avait un gros cigare, puis qui avait de l'air... Tu sais, un baveux avec un gros cigare.
Un gros Texan.
Ouais, un gros Texan. Puis t'avais à côté Jeb Bush, qui était très différent en apparence et en comportement. Fait que moi, juste question d'animer la conversation, je dis à mes trois autres, je dis, quand je vois les deux fils, est-ce qu'on est au début d'une dynastie? Et c'est Dick Cheney qui avait dit, lui, là, pointant du doigt W. Bush.
W.
Oublie ça. Ils sont tous partis à rire, comprends-tu?
Et il allait...
Il était président pour deux mandats.
Bush 43.
Voilà, voilà. L'autre anecdote que je peux te raconter, c'est...
Le Martini.
Alors, nous sommes en visite, ce qu'on appelle en visite de travail, donc presque pas de protocole. C'est pas une rencontre en tête-à-tête entre M. Mulroney et M. Bush, puis ensuite, ils prennent le lunch ensemble. Alors moi, je suis dans le mess qu'on appelle, qui est dans le sous-sol de la Maison-Blanche, qui est la cafétéria des employés, finalement. Et puis, il arrive un gars du Secret Service qui me dit, « Monsieur Lavoie, le premier ministre Mulroney veut vous voir, suivez-moi. » Je suis, il prend l'ascenseur, on arrive au quatrième étage, à partir du sous-sol, je pense que ça fait le quatrième. Mais le gars du Secret Service cogne à la porte, la porte s'ouvre. C'est lui, le président, qui est là. Hi! Come on in! Ben moi, je rentre. Puis, je vois qu'il y avait une espèce de petit comptoir en nickel ou quelque chose, qui est une sorte d'une petite cuisinette, bar. Puis là, je le vois qu'il est en train de faire du martini. Il dit, Would you like a martini? They're the best in the world. Sure. Alors là, comprends-tu le shaker, le zeste de citron? Il me donne ça, puis là, je vois apparaître M. Moroney, qui ne voulait simplement qu'un renseignement de ma part, telle affaire, il savait que c'est moi qui le savais. Puis il dit, OK, merci. J'ai dit, ça vous fait rien, m'a savouré mon martini dans les appartements.
Oui, servi par le président.
Tout à fait.
Mais préparé par le plus puissant barman du monde.
Au monde! Et ma dernière anecdote, je vais essayer d'être bref, c'est quand il est venu en visite peu après la fin de la Première Guerre du Golfe. Il était venu à Ottawa pour signer le traité sur les pluies acides. Et quand il entrait au Parlement à Ottawa, quand tu entres sous la Tour de la Paix, tu peux aller jusqu'à la bibliothèque tout droit où ça tourne à gauche, puis ça va vers la Chambre des communes et le bureau du premier ministre. Et M. Moroney faisait toujours ça. Il invitait tous les députés de tous les partis. Si vous êtes le long des câbles, on va s'arrêter pour vous saluer. Alors, M. Bush s'en venait. Tout à coup, il y en a un qui est un des députés conservateurs de la Nouvelle-Écosse, dont le nom m'échappe, qui dit, Monsieur le Président, il a l'air inquiet, tout le monde. Il dit, ma femme est américaine, alors mon fils est également à la double nationalité, puis il fait partie des Marines, puis il est déployé présentement dans le désert d'Arabie, puis on n'a plus de nouvelles de lui depuis 3-4 jours, puis ma femme se meurt d'angoisse, tout ça. Le président, il dit, I'll take care of it. On continue à marcher. On arrive au bureau du premier ministre. Il me demande à moi, y a-t-il une pièce à côté où je peux... Son attaché militaire s'en va là. Il ouvre une boîte. Il sort un téléphone de là-dedans. Il pèse sur un bouton. Puis il dit au téléphone, peu importe qui répond, ça devait être, j'imagine, le standard de la Maison-Blanche. Give me Schwarzkopf on the line.
Le général Schwarzkopf.
Le général Schwarzkopf, il est dans le milieu du désert, comprends-tu? Moi, je suis là, il garde la ligne. Ça prend à peu près 15-20 secondes. Yes, General. Il se tourne vers moi, il dit comment il s'appelait le député, je ne me rappelle même plus de son nom, je donne le nom, tout ça. C'est très bien, son fils s'appelait comment? J'ai dit, je pense qu'il s'appelait Raymond ou quelque chose. Bon, OK, on cherche un tel, parce que sa mère n'a pas eu de ses nouvelles. L'autre Schwarzkopf, il dit, ce ne sera pas bien long. 2 minutes après, dling, dling, hello, c'est Schwarzkopf, on l'a trouvé, il est dans tel campement, à telle place, il travaille pas aujourd'hui, il est bon. C'est assez incroyable. Hein?
Ça, c'est un président efficace.
L'efficacité de la machine américaine, mais en gros, M. Bush était un homme adorable.
Et Brian Mulroney va prononcer.
Oui, puis lui et Mulroney avaient développé une relation qu'on ne soupçonne pas. Là, c'était devenu quasiment son confident à propos de tout.
Ça avait bien commencé avec Ronald Reagan.
Mais M. Bush avait gardé avec Mulroney. Tu sais, il l'appelait à toutes sortes de sujets. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Et voilà.
Merci beaucoup, Luc.
Merci, Paul.
Et tu reviendras pour nous raconter d'autres anecdotes.
D'autres histoires de vieux mononcles.
Mais c'est pas du histoire de mononcles. Merci, Luc Lavoie.